Bonne année 2017 à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de l'Hebdopony de l'année 2017 et le numéro 134 pour l'ordre chronologique et présenté par votre serviteur habituel Lighty. Beaucoup de choses se sont passées pendant cette pause et nous allons donc aborder tout ce qu'il faut retenir dans ce qui s'est passé dans la commu avec les 5 thèmes habituels de l'émission: actualité, produits dérivés, fans médias, communauté et insolite. Tout d'abord l'actualité, on va commencer par un chiffre, le chiffre 26. Il veut dire plein de choses, mais dans la série, il signifie essentiellement le nombre d'épisodes qu'une saison aura. Eh ben, vous aurez raison car la saison 7 aura bel et bien 26 épisodes. Il a été annoncé sur Twitter et confirmé en même temps par Nick Confallon, qui lui aussi a été annoncé comme étant écrivain pour un épisode de la saison 7, avec une image montrant qu'il sera dispo vers le printemps, ce qui confirme les déclarations d'une représentante d'une boîte d'édition de jeux vidéo qui avait développé le jeu MLP Puzzle Party et qui avait déclaré lors d'une interview qu'il était prévu déjà que la saison 7 allait arriver pour le printemps 2017. Cela fait la première info officielle depuis octobre que nous avons sur la saison 7, malgré celle de James Asmus, dont je remets en doute ses propos sur les comics, à cause de son statut de nouvel écrivain chez IDW. Passons après avec l'arrivée de la deuxième moitié de la saison 6 qui est maintenant disponible sur Netflix. Mais malheureusement, la censure a aussi touché un épisode dans la saison 6. Si vous vous souvenez de Where's Apple Eyes qui a été censuré au Royaume-Uni, et bah malheureusement, la censure s'y est aussi appliquée sur Netflix. Si vous vous souvenez de la diffusion chaotique de la fin de la saison 6, vous avez pu remarquer que, tout d'abord, les épisodes ont été diffusés en avant-première en Grande-Bretagne, mais que aussi dans les 4 derniers épisodes qui ont été diffusés dans ce pays, l'un d'entre eux n'a pas été diffusé correctement. D'abord sans aucune raison apparente, mais qui plus tard a été dévoilé dû à la présence de Cider dans l'épisode. Netflix aurait donc appliqué cette même politique, car le Cider serait considéré dans la série comme de l'alcool. C'est encore plus fort que la censure sur The Last Roundup avec Derpy qui a été censuré sur le nom du personnage et sur le doublage. Mais sur le cas qui nous intéresse, personne n'avait fait de remarque. La question pèse si dans les futurs épisodes, le mot Cider sera remplacé par le mot Juice. Nous le saurons avec le retour de la série au printemps. Passons maintenant aux news conventions. Tout d'abord avec l'Everfree Northwest qui ont invité les doubleuses de deux personnages royaux. Ces deux personnages royaux sont Twilight et Cadence. Leurs doubleuses respectives sont Rebecca Swatchett pour la voix chantée de la princesse de l'amitié et aussi la voix de Sunset Shimmer, et Britt McKillip pour la princesse de l'amour. Vous pouvez également, news supplémentaire dans l'article, commencer à voir l'application de la convention pour poser votre candidature pour avoir un panel, un stand vendeur et aussi plein d'autres possibilités. Cette convention aura lieu du 12 au 14 mai à Seattle dans l'état de Washington, et pas Washington DC. Ensuite, la grosse convention numéro 1 Brony, la BronyCon a ouvert ses propositions pour les panels de l'édition 2017. Si cela vous intéresse, vous pouvez postuler votre inscription sur le site de la convention. Alors ça peut être un panel dessin, un panel animation, un panel musique ou même un panel drama. Oui, c'est possible, hein, vous avez le choix à n'importe quel panel. Pour ce qui est de la convention, elle aura lieu du 11 au 13 août 2017 à Baltimore. Partons du côté de la PonyCon, dont l'édition aura lieu à la fin du mois, qui ont annoncé le retour de Ashley Ball, ainsi qu'une liste de personnes invitées. Tout d'abord, la doubleuse d'Applejack et de Rainbow Dash sera présente pour cette convention, et vous pourrez aussi, si vous le pouvez, la voir ainsi que les invités d'honneur au banquet prévu lors de la convention. Mais pour cela, vous devrez acheter le ticket VIP. Quant aux autres personnes invitées, ce sont Danny Lou, le directeur de la série depuis les commencements de la G4, le groupe pop-rock The Shake Up in Ponyville, l'équipe de développement de Legend of Equestria, Ingrid Nilsson, la voix de Maud Pye, les programmeurs et admins de Derpy Bureau qui auront un panel dédié, ce qui est quand même une première pour eux, surtout que c'est la première fois qu'ils viennent en convention, et enfin pour finir, Kyle Rideout. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de la voix de Thorax, dont c'est la première venue dans une convention Brony. Toutes ces personnes seront là-bas du 27 au 29 janvier à Long Beach, dans l'état du New Jersey. Terminons les news conventions et la partie actualité avec les Pony Holidays. Car ça y est, vous pouvez maintenant vous inscrire pour l'édition 2017. Le dossier d'inscription est disponible en PDF et peut être envoyé soit par courrier, soit par mail. Il y aura 30 places maximum et les premiers inscrits seront déjà en place pour être sûr de partir au gîte des Hauts de Monceron, qui est l'endroit qui a été dévoilé durant le mois de décembre. Et ce séjour sera planifié du 16 au 26 juillet. Beaucoup d'autres news concernant les activités vous attendent sur le site, car malheureusement il n'y aura pas de place et le temps pour tout dire dans cet hebdo. Enchaînons sans plus tarder avec les produits dérivés. Tout d'abord, on commence avec le comics numéro 49 de la série principale qui est sorti depuis fin décembre. Alors, tous les liens menant au comics se trouvent dans le lien de la page live. Le prochain comics de janvier sera la dernière partie de l'arc Chaos Theory, avant de basculer dans le changement annoncé il y a plusieurs mois. Vu qu'on parle de changement annoncé dans les Friendship is Magic, on va s'intéresser à l'arc du changement, car le comics numéro 52 de la série principale a eu son synopsis de révélé et dévoile le possible méchant de la saison à venir. Donc ne vous inquiétez pas si le spoiler saison 7 est présent, car c'est normal. Alors pour ceux qui ne veulent pas écouter ce que je vais dire, bouchez-vous les oreilles. Il est la suite de l'arc suivant Chaos Theory. Le synopsis parle du Main Six qui devront s'aventurer dans l'histoire secrète et interdite d'Equestria et découvrir l'origine du méchant de cet arc, Shadowlock. En outre, il traite d'un regard sur le passé qui fait allusion au futur. Pour ce qui est de son lien avec la saison 7, si on se fie à la déclaration de James Asmus, dont je redis encore, je doute de sa pertinence, il semblerait que le lien en rapport entre le comics et la série télévisée serait ce nouveau personnage. Faudrait voir quelle sera la mise en forme en version télévisée. Quant à une sortie, elle sera pour le mois de février. Du côté des Friends Forever cette fois-ci, le comics numéro 38 a été dévoilé, avec le synopsis, et il annonce une scène de ménage entre sœurs princesses. Ce sera donc les dirigeantes d'Equestria qui seront dans cette aventure inédite, aussi bien dans les comics que dans la série, car une dispute entre Celestia et Luna prendra des proportions inhabituelles, au point que les deux sœurs, ne voulant plus se voir, sépareront le château de Canterlotte en deux, mais devront régner sur le pays malgré leur brouille. La date n'a pas été communiquée, et serait, aux premiers éléments qu'on nous a indiqués, en février. Toujours avec les sœurs princesses, mais cette fois-ci du côté des livres, le livre Wonder Code Forever, The Diary of Celestia and Luna, est enfin sorti. Ce livre coûte 7,38$ et fait 144 pages, et parle de la jeunesse des proviseurs de Canterlotte High School. Donc, j'ai pas besoin de vous le dire, il n'est surtout pas à mettre entre les mains d'une personne détestant la série Equestria Girls. Il est présenté comme un journal intime et sur la vision séparée des deux sœurs. On y sent quand même une certaine inspiration avec le journal des deux sœurs, mais version Equestria. Un nouveau livre sur Applejack est maintenant prévu et il s'appelle Applejack Sister Surprise. Ce livre qui s'adresse aux jeunes enfants concerne la sœur d'Applejack, Applebloom. Au vu du scénario, l'histoire semble être inspirée de l'épisode Somebody to Watch Over Me. Il est déjà dispo en précommande pour 4,99€ et possède 64 pages. Mais pour une sortie complète, il faudra attendre le 13 juillet 2017. En somme, il faudra attendre une éternité pour l'acquérir. Passons avec le magazine européen MLP du mois de février qui sera sur Flurry Earth. Elle sera avec une figurine du personnage et une aventure inédite dedans. Autant vous dire que ça sent la morosité avec ce personnage, dû à cause de l'opener raté de la saison 6. Les fast-food. Quand on parle de fast-food, on pense surtout à McDonald's. Eh bien oui, car un nouveau line-up de figurines MLP sont maintenant disponibles dans ces fast-food Made in USA. Pour les avoir chez nous, il va falloir attendre l'été, car les sorties de figurines My Little Pony au McDo français sont pour les vacances de l'été. En tout cas, l'année dernière, c'était comme ça. Plusieurs line-up ont été annoncés par la marque Entertainment Earth. Alors, dans ces line-up qui ont été dévoilés, il y a des peluches de nouvelle gamme, pour la plupart, des brochables de Main Six qui sont habillés de leur tenue du premier Grand Galloping Gala, des figurines Equestria Girls version Rainbow Rocks. Et enfin, pour revenir aux peluches, ces peluches au design différent par rapport aux précédentes éditions semblent se rapprocher du film de 2017. Quant aux dates de mise en vente, elles sont toutes situées pour le mois de janvier. Passons après à Hasbro qui a mis en ligne de nouvelles peluches et ont sorti aussi un Play-Doh interactif. Bon, pour ce premier, pas grand chose à dire car il rejoint le point précédent. Par contre, le deuxième est plus intéressant. D'habitude, Hasbro a fait plusieurs sortes de jeux Play-Doh avec MLP. Mais pour celui-là, il nécessite d'avoir l'application Play-Doh Touch. Le principe est de prendre en photo la création en pâte à modeler et de la voir se balader dans un univers virtuel. Le résultat fait d'avoir la création faite en forme de peluche, mais qui a identifié la création dans l'appli comme celle que vous avez faite. Pour avoir l'application, allez sur Google Play pour le télécharger gratuitement. Le random merch traditionnel. On va pas y louper puisque c'est le premier random merch de l'année. Alors, pour ce choix aléatoire, vous aurez des barres chocolatées, un sac qui fera de vous quelqu'un d'incroyable, des brosses à dents électriques, et le plus haut lot de ce premier random merch, des chaussettes de la marque H&M. Comme quoi, vous pouvez avoir le swag en portant des chaussettes MLP. 2017 vient de commencer et il faut évidemment acheter le calendrier de cette année. Je peux vous en proposer un avec des poneys. Ces calendriers-ci sont décorés avec des poneys pris dans le style des dessins propres aux comics, donc celles avec des contours sombres. Ils ont été aperçus dans un centre commercial en Californie. Mais malheureusement, elles ne seront peut-être pas vendues en France. Dommage, car le design fait quand même moins girly que l'habituel random merch, comme celui que je vous ai proposé dans le point précédent. Terminons la partie produits dérivés avec le sport extrême qui est le skateboard. Franchement, faire des figures avec un skate, c'est la classe, mais le faire avec un skateboard avec des poneys dessus, c'est quand même encore plus classe. Si c'est oui, eh bien, je vais vous décevoir tout de suite, car les poneys sur le skate de la marque Enjoy, qui est présenté sur le post Instagram présent sur la page live, sont issus de la G1 et non de la G4. Triste, hein ? Malheureusement, ce stuff n'est vendable qu'aux magasins spécialisés des sports extrêmes aux États-Unis et n'est pas dispo sur le web. Donc, finalement, on ne perd pas grand-chose. Enchaînons avec la troisième partie qui est la partie fan média. Tout d'abord, on commence avec un album. L'album Ponies at Dawn Amity qui est maintenant disponible en précommande. Il s'agit du 10e album sur le projet Ponies at Dawn. La sortie est prévue pour le 13 janvier et posée de 57 pistes, que ce soit des titres originaux, des remixes ou des chansons reprises de la série, avec les artistes suivants, enfin pour en citer quelques-uns. Silva Hand, Neverlast Standing, Cadenza, Undreaming Panic ou encore Skyrunner. Et dont la partie production a été assurée par quelques personnes comme DGT, Francis Weiss, NZND et Exploding Ponytoast. Avant de commencer la sélection musicale, on va commencer par un ultra mix brownie de l'année 2016. Bon, qui est un truc non officiel. Il s'agit d'un mix de 60 titres et qui inclut des titres originaux, des remixes venant de la série ou des titres déjà existants. Il est surtout fait avec de la musique électronique. Maintenant, nous pouvons passer à la sélection musicale. Commençons tout d'abord avec le titre A Surprising Joe de A Symphony of Two. C'est de l'orchestral avec le duo Spike Thorax, avec une ambiance douce et qui joue beaucoup sur l'émotionnel, mais reste d'une très bonne qualité d'écoute. Noël est déjà passé, mais bon, on n'est pas contre une plage de Noël, avec le titre Happy Earth Swarming Eve de Elias Frost. C'est une plage instrumentale et orchestrale qui a été faite pour Noël, bien qu'elle soit sortie un 5 janvier. Avec ce titre, Frost montre qu'il peut également montrer beaucoup plus avec de l'orchestral que le metal ou la musique folk. On enchaîne après avec Windwolf qui a sorti The Canyon, une chanson issue de Adventure of the Lunar Bolt, un jeu qui est toujours en développement depuis on ne sait plus combien de temps déjà. C'est l'extrait de cette bande-son qui est toujours en développement depuis un certain temps. Elle est orchestrale avec un soupçon de musique de Far West. Voici une parodie de Winter Wonderland. Elle s'appelle Ponies on Demand, faite par Albring Dad Lutz. C'est de la musique de Noël mélangée à de la musique pop. Ce titre court marque quand même le retour de cet artiste qui n'avait plus jamais fait de titre brownie depuis 2 ans environ. Mais on voit qu'il n'a pas perdu de son goût pour les parodies, car les paroles sont assez drôles. Passons rapidement à de la musique électronique avec tout d'abord Neverlast Standing qui a réalisé un remix sur le titre You Play Your Part de Daniel Ingram. Elle est typée électro. L'histoire de cette track est assez cocasse. L'artiste devait la publier en septembre 2015 et il avait oublié de l'uploader sur YouTube. Il fait remarquer, malgré tout en mettant cette piste, qu'il fait une pause en ce moment de quelques mois, mais il dit aborder 2017 qu'il prévoit comme spécial, avec quand même un teasing sur plusieurs nouvelles tracks à venir. FWLR, dont la vidéo est sortie par le collectif Cider Party, a réalisé God Intention, c'est de l'Electro House. Elle possède divers échantillons vocaux de Spike avec un mélange électro-cool et une partie chiptune. Passons à un autre remix, celui de EM120 sur le titre Zen, réalisé à l'origine par Cadenza. C'est un remix en version dance. Elle est plus puissante que l'original et est même assez groovy dans l'ensemble. Flutter Rex, quant à lui, a sorti Swarm is Coming. C'est de la musique industrielle. Elle se concentre sur les changelins et leurs invasions à Equestria. Elle est d'une tonalité sombre et agressive, avec une partie glitch. L'artiste déclare dans les commentaires qu'après avoir été absent depuis quelques temps, dû à des problèmes personnels, il a décidé de revoir toute sa conception musicale. Times de Pony Music est un titre de type Liquid Drum and Bass. Elle est assez calme sur les percussions et portée par une arrière-ambiance chill. Il a surtout été porté par l'aide de AT et de Skyrunner pour faire cette piste. Bang Pain et Undreaming Panic, quant à eux, ont sorti Nightlight. C'est de la dubstep. Elle est assez cool à l'écoute et pas violente dans les tempos de distorsion, et peut même être cataloguée en mélodique dubstep, due à une belle instrumentation et une mélodie travaillée. Voici un autre remix de la chanson The Midnight in Me de Daniel Ingram. Elle a été faite par Brilliant Venture. C'est de la dubstep. Contrairement à la vignette, ce n'est pas We Will Stand Forever Free qui a été remixé. Elle est très lourde dans sa conception et possède de minimes influences de la chiptune. Pour ceux ayant aimé la chanson originale pour ses paroles, regardez que le début car le reste est surtout axé sur de l'instrumental. Tea Leaves de Bang Pain est une piste drum funk, rythmée par des percus au contraire rapides de la précédente, et une sonorité qui n'arrête pas d'évoluer au fur et à mesure. Elle est postée sur la chaîne YouTube Equicity, qui est spécialisée dans le style drum and bass. Voici le retour d'un gros projet, celui du projet Maresei, avec le titre There is a light that never goes out. Alors, c'est du rock alternatif. Il signe le retour du projet Maresei où l'ambition est de rendre hommage au groupe The Smiths, et dont le 4e album The Brownie Album est disponible depuis le 20 décembre. Les thèmes de ce dernier sont Equestria Dei, la Brownicon, le cosplay et le R34. Bah oui, il en faut pour tous les goûts quand même. Terminons la sélection musicale avec Quicksilver qui a sorti Cake Drunk. C'est de la punk rock. Le sujet est sur Celestia et son addiction pour les gâteaux. Elle reste assez comique et est dans le genre punk pour sa rythmique et son tempo lourd. Passons à une chanson qui fera la transition musique vidéo. Il s'agit de Runaway, qui est issue de l'animation Choice qui a été faite par Joe Cartoonist. Elle sera issue de leur prochaine animation dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée. Mais la question reste en suspens, car elle sera la deuxième chanson de l'animation avec Trust in Me, dont un visuel a été déjà dévoilé. Alors, combien de temps va durer l'animation en vidéo? Telle est la question. Cette chanson ici n'a que l'instrumental, mais elle devrait avoir sa version chantée plus tard. D'autant plus que, dans le lien que je vous ai envoyé, les paroles sont déjà écrites. Il reste plus que la voix donc. Ensuite on passe à Worm Time qui a sorti deux vidéos. Comme c'était la période de Noël, il s'agit de The Seed of the Past et de Pinky's Present. Ce sont les deux chansons de l'épisode musical de la saison 6 et sorties sur YouTube la semaine des fêtes de Noël, qui ont été revues au piano synthétique. Idéal pour ceux voulant faire ce titre sur clavier. L'épisode Bats a enfin eu son Everything Wrong par Little Shy FM et il dure 3 minutes. L'épisode d'Halloween de la saison 4 passait à la lampe à erreur pour un total de 43 erreurs, avec la mention Mindas In, qui pourrait être traduit par un péché vicieux. Neville Yagi a sorti un Translation Guns Run sur la chanson Derby Racer. Alors il s'agit de la version suédoise de cette chanson, traduite de manière aléatoire. Avec au programme, un point Godwin, la volonté de voir mourir Epona, une envie d'aller aux toilettes, et un poney qui n'a pas l'air de comprendre ce que chante Applejack. Ce qui est normal, vu qu'on comprend pas du tout ce qu'elle dit avec son accent. Yoshi Greenwater, quant à lui, a sorti une animation de Noël appelée A Paper Derpy Holiday Vagary. C'est une animation de Noël sur Derpy qui essaye de confectionner un gâteau et qui finit par manque de talent de s'endormir et rêver du gâteau parfait dans un royaume de pain d'épices. On se demande ce qu'elle a pris, car ça doit être de la bonne. De la farine, de la bonne farine, pas de la drogue. Voyons. Alors Derpy qui a pris de la drogue, je dis pas. Mais par contre, une youtubeuse qui boit de l'alcool, c'est assez rare. Je parle de Vanna Melon avec sa vidéo Drunk Fluttershy Play the Wii. C'est un épisode spécial avec Fluttershy ou Flutter Drunk bourré qui joue à la Wii. Qui, déjà, faut être ivre pour jouer à cette console, mais aussi complètement déchiré pour jouer à des jeux pourris. Vanna Melon précise que lors de cette session, elle était vraiment bourrée. Ce qui en témoigne d'ailleurs les petits soucis de bien mettre sa télécommande devant le capteur. Heureusement, elle s'est rattrapée avec la vidéo Fluttershy Play Super Mario Run. Le premier jeu Mario qui a vu le jour hors des contrées de Nintendo et de ses royaumes que sont la Wii U et la 3DS. Et cette fois-ci, Vanna Melon n'était pas saoul. C'est vrai qu'entre Derpy qui a l'air d'avoir pris des substances assez bizarres et Vanna Melon qui est complètement bourré en enregistrement, faudrait quand même relever le niveau. Alors on va s'intéresser au collectif Le Coin Brownie qui ont sorti Twilight vs T-Rex, faites votre choix. Cette vidéo a été faite par Black Knight 820. Cette vidéo est faite sur le combat entre Twilight et T-Rex, et où l'ambiance musicale d'arrière-plan a été modifiée pour mieux correspondre à la séquence. Il y a trois montages de ce type, orchestral, néo-métal et thème de film. A vous de choisir lequel est le mieux adapté à cette séquence culte de la saison 4. Bass Brushy quant à lui a sorti MLP en vrai, Trixie of the Future, dont Retropony a aidé à la conception de cette dernière. C'est une vidéo drôle tirant son inspiration des MLP in real life, due aux prises de vue réelles, avec une Trixie voyageant sur un robot aspirateur, le tour sur de la Synthwave. Manquerait plus qu'elle tire des lasers avec ses yeux, et le futur serait dans la poche. On va passer après à une vidéo bizarre qui a l'air d'être sortie des années 80. Elle a été faite par Snivian Moon et elle s'appelle Maximum Pinkrobic on VHS. C'est une parodie de cassette vidéo des années 80. Cette vidéo s'adresse donc aux nostalgiques de cette période où les mères au foyer faisaient du sport dans le salon, devant la télé avec une coach sportive. Déstabilise de Bench Chief est une vidéo SFM assez déstabilisante, comme le dit le titre, et dont la musique a été arrangée par Prince Whatever. Elle nous montre que Sweetie Belle cachait son identité robotique depuis pas mal de temps, et elle s'enfuit après avoir provoqué un accident avec Scootaloo, et surtout à cause du jugement des autres qui l'a rendu coupable, et qui, après tout ça, finit par la plonger dans la folie, mais malgré tout en gardant des souvenirs de ses amis, qui feront tout pour la sauver. Les vidéos qui suivent sont des vidéos elles aussi SFM, mais qui sont dans un thème un peu plus sombre. La première s'appelle Young Sweet Haze, elle a été faite par Quillo Manar. C'est une animation assez creepy, car on y voit un cœur arraché par magie. La vidéo suivante est elle aussi SFM et surtout elle aussi creepy. Elle concerne les femmes natas de Pinkies, Philly Location, avec le sous-titre Revenge. Elle a été faite par Dan Jacobson. C'est une animation en 3D SFM sur la série des FNAP, mais qui est plus focalisée sur le 5ème opus. On peut voir que des modifications ont été apportées par rapport à la première vidéo sur Sister Location, comme Flurry Heart remplaçant Starlight Glimmer et l'apparition d'Ember dans les animatroniques. Passons après à la totalité du récap d'Equestria Girls par DWK. Il s'agit du récap à l'odeur d'alcool de la première partie d'Equestria Girls premier du nom, du début à la première nuit de Twilight dans le monde humain, avec un narrateur toujours à la pointe de la finesse. Enchaînons avec une vidéo bizarre qui s'appelle Twilight Gaidan, faite par Tridashi. C'est une vidéo que je ne peux pas expliquer car c'est le genre de vidéo qu'on pourrait classer comme un futur meme. Pour faire la transition vidéo comics fandom, on va s'intéresser à Nightfall Studio qui a sorti Derpy's Gift. Alors c'est une animation en motion comics où Derpy offre une lettre pleine d'amour au docteur. Mais ça, c'est ce qu'il croit, car cette lettre semble être écrite par un être malfaisant. Je précise quand même que cette vidéo a été faite à l'origine pour Halloween, mais que des retards avec la production n'ont pas permis d'être sortie à temps. Donc ne vous inquiétez pas si elle est creepy, car elle est sortie à la mauvaise période de l'année. Terminons la partie fan média avec la troisième partie qui est la sélection Comics Fandom. On commence d'abord avec Annie Ritchie Hart qui a dessiné Dirty Dancing. La dure question d'où viennent les bébés vient d'être faite avec Twilight qui la demande à sa mère. La réponse de la génitrice est assez détournée mais efficace. Par contre, gare à reproduire cela, car l'enfant peut comprendre ça au premier degré. Futurs parents, vous êtes prévenus. Toujours dans le domaine de l'enfance ou plutôt de l'innocence, on va s'intéresser au comics Santa's Not Coming to Town, dessiné par Colt Steel Stallion. Les parents ont pour lourde responsabilité lorsque leur enfant est trop grande de lui faire découvrir le secret du Père Noël, ici avec Twilight et son père. Et ça va être une révélation traumatisante, pas facile à encaisser pour la jeune Sparkle. Pony Berserker quant à lui a dessiné Technically Primogéniture. Trixie et l'Océ Cobalt se disputent sur qui est qui, car les deux se ressemblent beaucoup. Seule solution, le tribunal. Et ce n'est pas l'original qui gagne, car elle est née un jour après la copie. Enchaînons après avec Photo Finish de Toxic Mario. Derpy avait gagné la première place face à Rarity lors d'un derby d'Applewood, mais elle avait aussi gagné face à une autre Main Six. Ça sent un peu la tentative de tricherie, voire de corruption pour gagner le premier prix. Kai Simon a dessiné How That's Happening, et il pose une question assez pertinente. Comment les changelins ont-ils pu prendre le contrôle du cœur du cristal ? La réponse reste quand même assez osée, mais surtout complètement débile, car il faut vraiment tomber dans le panneau pour y être là. Grievous Fan s'intéresse avec le comics 47 Time to Charm à Fluttershy qui tente de voler avec les ailes de Discord, mais les résultats ne semblent pas satisfaisants et surtout assez décevants. Under Purple a dessiné Hey No. Pourquoi Chrysalis ne s'est pas rangée du côté du bien ? Premièrement, elle s'est imaginée avec une forme immonde. Et deuxièmement, que Starlight semblait être insistante, car elle avait une idée derrière la tête avec cette réformation. Bob the Dalek, quant à lui, a dessiné Disappearing Dolls. Les poupées de Sunburst et de Starlight pour Earthsummoning Eve ont disparu, et apparemment, ils vont être utilisés pour un spectacle. Par contre, la voleuse semble avoir prévu un spectacle pas adressé à tout public. Dilarus, quant à lui, a dessiné The Best of Exception. Applejack avait invité Fluttershy à passer Earthsummoning Eve avec sa famille. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et AJ va lire ça et sans filtre. Intéressons-nous maintenant à deux histoires de Adorkable Twilight and Friends. Le premier s'appelle A Whole New World. Moondancer fait connaître à Twilight le style de jeu Visual Novels, où elle peut avoir un rendez-vous galant avec n'importe qui. Et apparemment, elle aurait des vues sur un type d'étalon en particulier. Le deuxième comics s'appelle Time Capsule, et elle s'intéresse à Rainbow Dash qui fait partager des souvenirs d'enfance à Scootaloo. Mais la jeune Pégase trouve tout cela ringard, ce qui a l'effet d'une claque pour Rainbow Dash qui se sent vieillir d'un coup. Passons après à Not Doing Herself Sing to You Waifu 2017, faite par Boys to Your Waifu. Alors c'est fait par une personne qui n'est pas brony et encore moins un artiste. Ce genre de comics reste un classique de la commu, malgré qu'il a été utilisé à toutes les sauces. Le comics Work Hazard de Frankie Hart nous apprend un peu mieux le système digestif de Celestia, et surtout de ses effets dans les environs, enfin plutôt ses effets sur ses gardes. Annie Ritchie Hart, encore lui, a dessiné encore une fois Trixie's Revenge. Humiliée par le fiasco sur l'Ursa Minor, Trixie se venge en ruinant la réputation de Twilight avec une androïde à son apparence, et la faisant passer pour une licorne portée sur la provoque et le trash, et dont le point culminant de la supercherie est le mariage entre elles. Pour terminer la partie fan média, qui est extrêmement longue, je dois l'admettre, on va parler de Deus Excus qui a dessiné No Hating Properly. Alors, un patient est hospitalisé car il a un objet coincé dans le rectum, pour dire dans le derrière. Le diagnostic est qu'il ne mange pas correctement. Embrayons tout de suite sur la partie communauté avec les résultats des sondages passés, celui sur la meilleure saison à ce jour et celui sur les infidélités de certains envers leurs persos favoris. Sur le premier sondage, on remarque que c'est la saison 5 qui est la première accompagnée des saisons 4 et 2. Mais la saison 6 qui a été encensée chez les francophones n'a pas convaincu à l'international et se retrouve au pied du podium. Inutile de dire quelle est la saison qui est dernière, car elle se traduit par le chiffre 13. Quand deuxième sondage, il fait un avis d'opinion et de test de fidélité sur les personnes ayant des persos préférés, et la majorité semble être fidèle à leur poney favori, avec près de 64% des sondés. Le sondage actuel concerne une battle entre les deux artistes de Ponyville, l'une de genre classique et l'autre de genre électronique. A vous de choisir entre Octavia et Vinyl Scratch. Ensuite, on enchaîne avec les questions-réponses d'Equestriadine, édition 12 et 13. Alors, avec au total le clop et la réponse à ce sujet, les versions alternatives de l'histoire de la série, pourquoi Discord n'a pas de backstory, un Main 6 alternatif, ou encore un nouveau chapitre pour Starlight dans la série. Comme à chaque fin d'année, il y a des remises de récompenses, Slash MLP a fait le leur avec les Awards de Slash MLP. Avec pour les distinctions les plus intéressantes, Tamita Sajama qui reçoit le prix du membre du staff le plus cool, le pire shitstorm pour Jim Miller et son pétage de câble sur Twitter, The Moon Rises pour la meilleure animation fan-made, la pire fan pour I Love Kim Possible A Lot, dû au scandale la concernant, et l'accomplissement de Slash MLP pour leur victoire à la 4chan Cup. Tout le reste des récompenses est à retrouver sur l'image se trouvant sur la page live. Ceux qui font des animations fanmade vont aimer cette news, car Ingenious Rock, le père de Pinky, est maintenant prêt aux animations SFM. Il est le deuxième membre de la famille Pie avec Maud à être en version 3D, en tout cas à ma connaissance, mais surtout pour être téléchargé publiquement et utilisé pour des animations, même si le reste de la famille Pie peut être obtenu sur diverses chaînes de DeviantArt. Intéressons-nous après au jeu Ambient White qui a maintenant sa page communautaire. Le jeu qui est maintenant sur une ligne claire depuis la mise en ligne d'une vidéo explicative des développeurs sur les nouveautés à venir, celle-là en fait partie car le projet est prévu de sortir en plusieurs langues, dont le français. Et c'est le lien de la version française que je vous ai posté sur la page live. Cela vous permettra de voir les avancées et les messages qui arriveront concernant Ambient White. La vidéo qui se trouve sur le post est très récente et montre un passage de dialogue. Petite news rapide concernant Battle Game Ponies qui a été greenlighté par Steam. C'est en fait le jeu Pokémon-like version MLP qui est maintenant dispo sur Steam. Donc, il est juste dispo maintenant pour être joué. Inkpot a fêté cette semaine ses 3 ans de travail sur le domaine de l'animation Brony. Pour souvenir, sa première vidéo a été faite le 3 janvier 2014. Et l'animation qu'il a faite pour fêter ses 3 ans est faite sous Motion Picture. Et elle est quand même assez drôle. Continuons après avec le match à mort opposant Pinkie Pie à Deadpool qui est maintenant visionnable. Il s'agit de l'un des combats les plus attendus car il confronte les deux personnages les plus imprévisibles de la pop culture, connus pour leur brisage du quatrième mur dans leur univers respectif. Le résumé de ce duel est assez compliqué à faire car il commence normalement mais continue vers une intervention dans d'autres matchs à mort et se termine d'une façon que personne n'aurait prévu, au point de dire que les perdants ne sont pas ceux qui se sont battus. On l'avait évoqué lors du dernier Hebdo Pony de l'année 2016, Silly Philly Studio qui avait annoncé mettre en suspens leur projet. Malheureusement, on vient d'apprendre que Greg de Mentally Advanced Series et Scribler, un youtubeur varié mais spécialisé dans les comics dub, sont aussi touchés par la politique de YouTube. Ces deux personnes sont eux aussi touchées par ce problème d'algorithme sur le site avec la disparition d'abonnés, alors qu'ils n'étaient même pas des abonnés, et la mise en lumière de divers contenus qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Scribler a fait dans une vidéo une explication claire et précise sur le problème posé, mais malheureusement pour ces personnes, la décision est de mettre en stand-by leur futur projet, tant que le souci n'est pas réglé. Même si à l'heure actuelle, on ne sait pas si une solution est envisagée à ce problème, qui fait des ravages sur le contenu vidéo, et pas seulement sur le fandom. Alors pour finir la partie communauté, je conseille aux plus jeunes d'arrêter d'écouter parce que ce qui va arriver est un contenu plus 18 ans, donc NSFW. Alors bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne veulent pas écouter ça. Le pack numéro 2 de Club for a Cause a été maintenant publié. C'est pas moins de 33 artistes connus du fanart pour adultes qui ont été mis à contribution pour réaliser près de 50 fanarts, et plus de 90 de leurs variantes, qui vont du dessin en noir et blanc aux premières esquisses, ainsi que d'autres détails présents que je ne mentionnerai pas ici. Ce pack est principalement axé sur le festif et le sensuel. Ce projet est à but non lucratif, et les fonds obtenus iront à la fondation Toys for Tots, qui ont pour but de donner des jouets à des enfants et des familles défavorisées, à travers les États-Unis. C'est plus adressé pour un public averti, mais la cause reste noble. Et si vous voulez donner sans passer par Club for a Cause, vous pouvez faire un don directement sur le site, dont le lien se trouve sur la page live. Pour terminer les Pony, intéressons-nous aux news insolites. On commence d'abord avec une erreur de com. Alors, on avait évoqué sur une radio libre, avec comme sujet les conventions et les soucis de communication, qu'il arrive parfois de faire des erreurs de com ou des messages sur les réseaux sociaux qui peuvent être mal compris. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que ce souci peut toucher d'autres corps de métier, et en particulier le staff scénario. Car oui, Megan McCarthy, la scénariste en chef de My Little Pony Friendship is Magic, a fait une belle boulette de com. Sur Twitter, elle avait annoncé un énigmatique encore une semaine. Vu son affiliation à la série, tout de suite le fandom s'est emballé pensant qu'elle allait dévoiler quelque chose d'important sur la saison 7 ou sur le film. Mais plus tard, tout ce teasing n'a laissé place qu'à un pétard mouillé car elle a précisé que ce n'était pas MLP, mais sur son anniversaire qui aura lieu dans une semaine. Vous voyez le file quand même, hein. La news suivante nous va venir quelques mois en arrière, plus précisément dans le mois de juillet. Alors, pour vous rappeler, une personne avait défendu Melania Trump en disant qu'elle s'était inspirée de la princesse Twilight. Alors, pour cette personne en question, était le responsable de la communication lors de la convention républicaine pour l'intronisation de Donald Trump en tant que candidat républicain à la Maison Blanche. Et lorsque des accusations de plagiat de Melania sur son discours, qui ressemble à s'y méprendre à Michelle Obama, ont plu, ce dernier a alors mis en parallèle un des passages du discours avec une phrase que Twilight avait dite dans la saison 5. Alors, aux dernières nouvelles, cette personne a été nommée attachée de presse par Donald Trump en personne. On s'attend maintenant qu'il nous sorte tout et n'importe quoi, au vu de celle qui lui a fait friser le ridicule dans les late shows. Passons après à une vidéo qui est un autre défi d'accélération. La chanson A True True Friends accélérée à 5% à chaque fois que le mot Friends est utilisé. Je vous la mettrai à la fin de l'hebdo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, on passe à une petite blague. Google nous l'avait caché, mais il existe bien une carte d'Equestria réelle. Bon, en vrai, c'est simplement une version fan d'Equestria, mais en reprenant le filtre de Google sur l'application Google Maps. Enfin, pour conclure ce premier hebdo-pony de l'année, vous pouvez apprendre à danser comme les Humane Seven en live action. Alors bon, que dire de cette vidéo? D'abord que ça peut être bien pour apprendre à danser. Mais c'est tout, car le reste, une seule chose est sûre, c'est que le budget est passé principalement dans le maquillage. Les actrices sourient comme des psychopathes s'apprêtant à tuer quelqu'un, et que Donald Trump a peut-être raison pour le mur avec le Mexique, vu que la vidéo est adressée aux Sud-Américains. Au vu de la vidéo, oui, il faut le construire, et vite, car ça pourrait déteindre sur le reste du fandom. Le maquillage, hein, pas la qualité de la danse. Quoique, je ne suis pas sûr qu'une personne lambda danse comme elles le font. Et c'est sur la possible raison que Trump doit bâtir le mur à la frontière mexicaine que s'achève cet hebdo-pony numéro 134, qui a essayé de résumer 3 semaines passées dans le fandom. Merci de votre écoute, et rendez-vous dimanche prochain pour l'hebdo-pony numéro 135, et samedi pour une radio libre qui sera sur les conventions, et une convention en particulier. Bonne soirée à toutes et à tous, encore bonne année 2017, et comme promis, je vous laisse avec A True True Friends accéléré à 5%. À la prochaine, ciao!
It worked! It worked! Oh, I'm so happy you're back to normal! Now we need your help!
A true, true friend helps a friend in need. A friend will be there to help them see. A true, true friend helps a friend in need to see the light that shines from a true, true friend.
Right there.